Ni Menet ni Renoir n'avaient un sou devant eux. Alors, ils avaient loué un atelier ensemble, ils s'arrangeaient pour payer le loyer, n'est-ce pas ? Ils faisaient des travaux quelconques, et au début du mois, ils achetaient un sac de légumes secs, par exemple des haricots. Alors, c'est un sac de 50 kilos. Ils étaient obligés d'avoir du feu, étant donné qu'à eux deux, ils employaient un modèle, et que ce modèle souvent posait le nu. Il fallait donc avoir une bonne température dans l'atelier, sinon la pauvre fille aurait attrapé des fluxions de poitrine. Alors, comme il y avait un poêle, pas sur le poêle, on mettait une casserole avec de l'eau, du sel, du poivre, on faisait cuire des haricots. Mais pour en venir à Menet, Menet, c'était un homme qui avait la conviction qu'un jour, il serait riche. Par conséquent, il était riche déjà maintenant. Si on doit être riche un jour, pourquoi ne pas faire des dettes ? Et Menet, mangeant ses haricots dans l'atelier qu'il loue avec mon père, avait déjà le meilleur tailleur de Paris, ne portait que des manchettes en dentelle, n'est-ce pas ? Des chemises de lin pur ou de soie de Lyon, n'est-ce pas ? Et d'ailleurs était extrêmement arrogant, extrêmement hautain avec les gens qui avaient l'air de mépriser leur petit groupe.
L'humeur vagabonde sur France Inter.
Le cinéaste Jean Renoir rapportait ainsi en 1959 les souvenirs de son père, Auguste, lorsque celui-ci partageait avec Claude Monet un atelier, des haricots secs et quelques modèles. Déjà, les différences entre les deux amis s'affirmaient. L'un, Renoir, peintre du soleil, attiré par les couleurs méditerranéennes, héritier des Grecs, dira de lui Monet, et lui-même se définissant comme un homme du Nord, recherchant la lumière plus délicate des paysages normands et d'Île-de-France. Et dans leur commune pauvreté, seul Monet n'hésitait pas à s'endetter pour se vêtir, mais aussi déjà pour acquérir des œuvres de peintres admirés. D'ailleurs, à la fin de leur vie, tous deux riches et comblés d'honneur, l'état de leurs possessions sera radicalement différent. Renoir n'aura chez lui que quelques tableaux d'autres artistes, quand Monet laissera une remarquable et vaste collection au milieu de laquelle il finira ses jours. Son inventaire ayant disparu en 1940 et l'unique héritier du père de l'impressionnisme ayant beaucoup vendu de toiles, c'est à une véritable enquête policière de longue haleine que le musée Marmottan-Monet s'est livré pour retrouver une grande partie de ses œuvres exceptionnelles éparpillées entre musées et détenteurs privés. L'exposition Monet collectionneur passionnante et splendide est à voir jusqu'au 14 janvier. Bonsoir Marianne Mathieu.
Bonsoir Cathy.
Vous êtes l'une des deux commissaires de cette exposition, directrice adjointe du musée Marmottan-Monet. Alors je disais enquête policière, c'est vrai que lorsque Michel Monet, son fils, a légué en 66 ce qu'il restait de ses collections au musée Marmottan, il n'y avait pas d'inventaire, donc il ne restait pas grand-chose de cette énorme collection. Donc depuis ce temps-là, les gens qui travaillent à Marmottan-Monet se sont préoccupés de retrouver au moins une liste plus ou moins exhaustive de cette collection formidable que Claude Monet avait installée chez lui.
Alors vous l'avez dit tout à l'heure, il existait une liste, cet inventaire après décès qui est dressé à la mort de l'artiste en 1926 par Bernheim. Et donc les galeristes vont séjourner 2 jours à Giverny pour l'établir. On a retrouvé dans les archives notariales les factures attenantes à cette opération, mais malheureusement, eh bien, ce Graal a disparu. Alors nous l'avons cherché partout, dans toutes les archives notariales de Normandie, dans les familles, mais la seule et unique liste pouvant dresser un panorama exact, j'allais dire certifié, de la collection Monet a disparu. Il a donc fallu le reconstituer et c'est là où notre travail d'enquêteur de fourmis eh bien, nous a conduit pendant 4 ans sur les routes de France et notamment de Normandie.
Lorsque Michel Monet décède, je le disais, c'était en 66, il reste quand même déjà beaucoup de choses. Mais comment se doute-t-on d'ailleurs qu'il y a eu, pour assurer le train de vie assez fastueux de Michel Monet, qu'il y a eu autant de ventes, pas seulement à des musées, mais de ventes à des collectionneurs privés. Donc, qu'est-ce qui vous met sur la piste à ce moment-là ?
Alors déjà, c'est Monet lui-même qui nous met sous la piste. Dans les années 20, Monet va recevoir quelques intimes, quelques journalistes, et va leur ouvrir les portes de ses appartements privés. c'est-à-dire des zones qui sont traditionnellement fermées aux visiteurs. À Giverny, ce sont notamment sa chambre à coucher et les pièces qu'il occupe au premier étage de la maison. Et là, on nous décrit, en quelques mots, de manière très succincte, cette collection. Qu'est-ce qu'on en tire comme information ? On identifie ça et là quelques œuvres, et on comprend immédiatement que la collection de Monet est une collection majeure. Donc, Monet nous en dit suffisamment pour créer un mythe, mais suffisamment peu pour que nous connaissions l'ampleur, la liste exacte de cette collection, et surtout, c'est ce qui prime, son histoire. Quand, comment, pourquoi ces œuvres sont-elles arrivées in fine à Giverny ? C'est tout le travail que nous avons essayé de reconstituer durant ces 4 années.
Alors, parmi les visiteurs privilégiés, il y en a tout un certain nombre. Il y a ses amis artistes, il y a Julie Manet, la nièce de son ami Manet. Il y a aussi quelques écrivains, quelques critiques d'art. Et Sacha Guitry, notamment, a eu le droit de visiter ses pièces privées à l'étage de Giverny. On l'écoute.
Monet se levait avec le soleil et se couchait en même temps que lui. Il ne fermait jamais les rideaux des fenêtres de sa chambre afin de ne point perdre une minute de lumière. Il dévorait des yeux la nature et il était visible que les mains dans les poches, il ne cessait de peindre. Son jardin était un des plus beaux jardins du monde et c'était son seul luxe. Il en décidait la couleur quelques mois à l'avance et pour rien au monde il n'eût offert une fleur de son jardin. Il considérait que c'était un crime que de couper une fleur vivante. Sa maison était sacrée et il en défendait la porte aux intrus. Je sais des gens qui sont venus de loin, de très loin pour le voir, et je sais qu'ils ne l'ont pas vu. Mais l'accueil qu'il réservait à ses amis était émouvant et véritablement, il leur ouvrait les bras. Jamais nous ne nous sommes retrouvés ou séparés sans nous embrasser. Dans sa chambre, il y avait 2 admirables Cézanne, le nègre en pantalon bleu et le panier renversé de pommes, un Renoir, un Manet, un Sisley et 2 aquarelles de Boudin, si ma mémoire est fidèle. Dans son atelier, quelques toiles de lui, une photographie de Manet, et dans une petite vitrine, près d'un portrait de Pissarro, l'enveloppe étonnante, exquise d'une lettre qu'il avait reçue jadis de Mallarmé. La voici. Monsieur Monet, que l'hiver ni l'été sa vision ne leurre, habite en peignant Giverny, sis auprès de Vernon dans l'heure.
Marianne Mathieu, on vient d'entendre, Sacha Guitry le dit, si ma mémoire est fidèle. Parce qu'en fait, dans votre enquête policière, vous avez épluché tous les comptes rendus de l'époque, ceux qui avaient le droit de rentrer dans ces pièces. Parce qu'en fait, on se rend compte que, à l'inverse de nombreux collectionneurs qui ont envie de montrer leurs merveilles à tous ceux qui rentrent chez eux, déjà, Monet n'acceptait pas beaucoup de visiteurs. Et il fallait en plus être encore plus privilégié pour pénétrer dans ces pièces. Parce que dans les pièces de réception, il n'avait que ses estampes japonaises, sa fameuse collection d'estampes japonaises, quelques autres petits objets. Mais les tableaux qu'il aimait, il les réservait pour son espace privé, dans lequel, à part Guitry, Clémenceau, Julie Manet, peu ont témoigné de ce qu'ils avaient vu.
Parce qu'ils étaient effectivement, comme vous l'avez dit, très peu à être autorisé à pénétrer dans ces zones privées, familiales de la maison de Giverny. Monet est un homme qui a communiqué remarquablement tout au long de sa vie et Giverny va devenir un lieu de rencontre, un lieu de travail. Il va donc ouvrir ses portes à des amateurs, à bien évidemment des galeristes, qui vont venir faire le pèlerinage à Giverny déjà au début du XXe siècle, pour visiter le jardin et pénétrer dans des appartements ouverts, on va dire, de réception. Effectivement, vous parliez très justement de cette salle à manger avec ses murs jaunes, tapissés d'estampes japonaises. Et d'ailleurs, Monet disait « Vous ne connaissez que mes estampes japonaises, mais j'ai aussi ma collection ». Donc, on voit bien qu'on est dans un registre légèrement différent. Et puis, ce qu'on appelle le salon-atelier, où l'artiste exposait ses propres œuvres. Alors, on s'est demandé pourquoi. Eh bien, Monet est un homme d'une grande pudeur. Lorsqu'il reçoit, fondamentalement, il travaille et il communique autour de son œuvre et de son projet artistique. Ce qui relève de sa vie privée, de son intimité, il n'en touche mot C'est le cas, par exemple, de sa vie de famille. Et c'est aussi le cas de cette collection qui est, on pourrait dire, son panthéon artistique et sentimental, qui n'a d'autre vocation que de répondre à son propre plaisir. Il n'a rien à prouver, il n'a pas à en faire état, relevant de son intimité et de sa vie privée, il n'en parle pas.
Marianne Mathieu, c'est une collection d'égoïstes, on dit certains, parce qu'il se la gardait pour lui. Est-ce qu'on sait quand même, en gros, parce que les murs ont des limites, à peu près combien de toiles il avait exposées dans cette collection personnelle? Est-ce que ça se chiffre en dizaines? Est-ce qu'on arrive à la centaine? On a dit parfois qu'il a eu jusqu'à 14 Cézanne.
Nous avons la trace des 14 Cézanne. Tous ne sont pas malheureusement présentés dans l'exposition parce qu'il y a des œuvres qui ne voyagent plus depuis longtemps. Nous avons essayé de reconstituer cette collection et d'établir une liste. Donc on a fait ce travail de fourmi. Nous avons réuni l'intégralité des sources. Alors vous le disiez tout à l'heure, ce sont l'inventaire après décès de Michel, des inventaires qu'il avait pu demander de son vivant, ces fameux comptes rendus de visite, mais sont aussi les correspondances entre artistes. Ce sont les livres de stock des galeristes qui nous indiquent quand, pour combien, à qui ils vendent telle ou telle œuvre, les catalogues de vente aux enchères et les procès-verbaux de vente aux enchères. Alors, on va aux archives de Paris. Ce sont des documents qui sont écrits en pattes de mouche et donc il faut les déchiffrer pour voir si, par hasard, dans la marge, on aurait le nom de l'acquéreur Monet qui apparaît. Nous avons travaillé aussi, bien évidemment, à partir des catalogues raisonnés. À partir de là, nous avons fusionné toutes ces informations et créé une première liste idéale que nous avons passée au rayon X pour vérifier si les souvenirs d'un tel ou d'un tel étaient exacts, si, par exemple, nous pouvions trouver une facture qui attestait de l'entrée ou pas de l'œuvre. Alors, à la fin, nous avons recensé 120 œuvres toutes techniques confondues, c'est-à-dire principalement des peintures, des œuvres graphiques et aussi quelques sculptures, puisque le cadre de Rodin est à évoquer. Et nous présentons dans l'exposition 77 œuvres, plus bien évidemment une importante sélection d'estampes japonaises qui viennent directement de la maison de Giverny.
Alors dans les témoignages émouvants, pas forcément tout à fait exacts, parce que chacun regarde une collection avec des yeux parfois intéressés si on est plus ou moins habitué à tel artiste, il y a évidemment le journal de Julie Manet, Julie Manet, la fille de Berthe Morisot, qui le 30 octobre 1893 relate dans son journal sa visite dans les appartements privé de son ami Claude Monet.
La maison a changé depuis la dernière fois que nous sommes allés à Giverny. Monsieur Monet s'est fait faire une chambre par-dessus l'atelier avec de grandes fenêtres, des portes et un parquet en pitch peint, étendu de blanc. Dans cette chambre, beaucoup de tableaux sont accrochés, entre autres Isabelle Sepeignan, Gabriel à la jatte, Cocotte avec un chapeau, un pastel de maman, un pastel de l'oncle Édouard, une femme nue très jolie de Monsieur Renoir, des Pissarro, etc. La chambre de Madame Monet a des boiseries bleues. Celles de Mesdemoiselles Blanche et Germaine sont violettes. Nous n'avons pas vu la chambre de Mademoiselle Marthe. Mademoiselle Blanche nous a montré des tableaux d'elle qui sont d'une jolie couleur. Deux représentant des arbres se reflétant dans l'Epte et qui ressemblent à la peinture de Monsieur Monet. Le salon est en boiseries violettes. Beaucoup de gravures japonaises y sont accrochées, ainsi que dans la salle à manger, qui est toute jaune.
Je signale que le passionnant journal de Julie Manet vient d'être réédité au Mercure de France, dans la belle collection Le Temps Retrouvé. Là, on entend Julie Manet qui parle de l'époque Ali Sojdé, c'est-à-dire qu'il y a eu deux époques dans la vie de Monet collectionneur. Il y a eu la période Camille, qui correspond aux premières années jusqu'à la célébrité. Puis, quand Camille est morte, il y a eu la période Ali Sojdé. Et on entend le nom Blanche qui revient, Blanche Hochedé, qui deviendra l'assistante de son beau-père, qui peindra elle aussi. Et on se rend compte, Marianne Mathieu, qu'en fait, ces peintres épousaient des femmes sous le régime de la séparation de biens. Ce qui aussi, dans les héritages, donc dans les inventaires, complique les choses, parce que il n'y a pas eu dans la succession, par exemple, de la famille Hochedé, d'inventaire de la collection de Claude Monet.
Oui, c'est effectivement une question que nous nous sommes posées puisque Claude Monet a eu deux femmes. Camille, qu'il épouse en 1870, qui va décéder tragiquement en 1879. Puis, de longues années après, bien qu'il partage sa vie immédiatement avec elle, Alice Ojeda, en 1892, et Alice décède en 1911. Alors, dans le cas de Camille, Camille, comme Monet, a été portraiturée par beaucoup des compagnons de route de Monet, et notamment par Renoir. Il faut dire qu'elle était formidable, c'était un modèle, elle posait bien, longtemps, elle était belle et apprêtée. Et donc Monet et Camille ont reçu en cadeau certaines de ses œuvres. Et donc la question qui s'est posée, au décès de Camille, c'est à qui appartiennent ces tableaux? Parce qu'on pourrait légitimement penser que les portraits de Camille lui appartiennent. Eh bien, aucune œuvre ne figure dans sa succession. On y voit uniquement les hardes. Je vous dis ça de mémoire, mais c'est une succession qui était évaluée à l'époque à 100 francs à peine. Alors ce sont aussi encore des années de grande pauvreté. Quand Camille décède, Monet n'a pas les moyens nécessaires pour organiser ses funérailles et donc il demande à Georges de Béliot de lui permettre d'aller chercher un médaillon au clou pour pouvoir le lui rendre, si je puis dire. Alice, c'est aussi un cas de figure similaire. Monet, quand il l'épouse en 1892, ils vont choisir un régime de la séparation de biens. Pour plusieurs raisons, mais aussi parce que le premier mari d'Alice, Ernest Ojeda, lui a fait banqueroute et depuis 1877-78 est poursuivi par les huissiers. Donc, par mesure de précaution, on se marie sous la séparation de biens. Et au moment de son décès, lorsque on fait l'inventaire après décès, aucune œuvre ne fait partie légalement de cette succession puisqu'elle n'apporte aucune œuvre dans le contrat de mariage. Donc les œuvres chez Monet, c'est une question d'homme et ça se vérifiera aussi dans le cadre de la succession de son fils Michel.
Yeah.
Marianne Mathieu, dans cette exposition Monet collectionneur qui est à voir au musée Marmottan, Monet jusqu'au 14 janvier, ce qui est passionnant, comme dans la plupart des expositions que vous organisez, c'est que chaque œuvre accrochée est particulièrement bien documentée. Les cartels racontent les histoires de ces œuvres qui sont formidables parce que ça raconte les histoires des hommes autour desquels ces œuvres se sont organisées, croisées, notamment les histoires d'amitié très fortes entre les peintres de ce mouvement impressionniste. Et l'exposition montre bien qu'il y a deux périodes dans la vie de Monet collectionneur. La période des vaches maigres, qui va à peu près jusqu'aux années 1880, et ensuite après l'aisance financière. Dans la première partie, les œuvres que vous avez retrouvées et accrochées, ce sont souvent des cadeaux, des échanges avec ses amis, parfois quelques petites acquisitions pour des sommes modiques, souvent qu'il sera obligé de revendre quand il aura besoin de s'alimenter, et ensuite des achats. Et ce qui est très intéressant dans la période achat, c'est qu'il les achète à des marchands ou en vente, et jamais à ses amis. Comme s'il y avait, vous disiez tout à l'heure qu'il était très pudique, en fait c'est comme si Monet ne voulait pas obtenir de passe-droit. Il voulait acheter les œuvres à leur juste prix et pas les demander à ses amis.
Je pense même qu'au-delà de ça, Monet voulait être libre. Et que collectionner pour Monet, ça n'est pas une question d'amitié. C'est une question d'art et de peinture. Il veut être absolument libre de l'œuvre qu'il aura chez lui. Et cette liberté, elle passe par, le marché de l'art, s'adresser à un marchand, ou acheter des œuvres en vente aux enchères. Quand il aura les moyens, il achètera cher et il achètera des œuvres de toutes les périodes. Une œuvre récente qui va avoir 5-6 ans ou un tableau de Renoir peint dans les années 1870. Donc seule l'œuvre prime. Et donc il y a cette volonté, je pense, de constituer une collection qui correspond à son œil et qui est une sélection pour lui d'œuvres majeures. Ça, c'est un enchantement de cette exposition, c'est de voir avec quelle perspicacité Monet a pu sélectionner ces dizaines et dizaines de peintures de ses collègues. On y retrouve Caillebotte, Berthe Morisot, Pissarro, Rodin, Renoir bien évidemment, Cézanne encore, mais d'autres, Corot, Delacroix, toujours avec un souci de qualité qui effectivement nous émerveille encore.
Alors parmi les œuvres les plus touchantes, il y a pas loin l'une de l'autre, l'œuvre de Manet, le bateau atelier, où il a représenté sa femme Camille et son ami Claude Monet. C'est une esquisse qu'il a ensuite offerte à son ami. Et pas très loin, il y a les œuvres de Renoir, les portraits côte à côte, le portrait de Claude, le portrait de Camille. Et c'est très touchant de les voir à nouveau réunis.
Alors, ce sont des rares œuvres qui appartiennent aux collections du musée Marmottan, et quand Michel Monet décède, il y a donc un inventaire qui a lieu chez lui, et c'est très émouvant parce que ces deux tableaux qui sont un peu des faux pendants. Ce ne sont pas des tableaux similaires, mais pourtant, Monet se tourne vers la droite, Camille se tourne vers la gauche, donc ils se regardent, et les tableaux sont exactement de même format. Et donc, probablement, Renoir a souhaité réunir ce couple qui refusait de poser ensemble, particulièrement Monet était réticent à cela, et seul Manet était arrivé avec son autorité naturelle à les réunir sur cette même toile, qui est une toile effectivement qui n'est pas tout à fait achevée. Michel, peut-être Monet d'ailleurs, les a réunis dans un même cadre, et on présente cette photo d'archive extrêmement émouvante où un homme et une femme, un père et une mère sont réunis ensemble.
Alors, on ne va pas pouvoir faire l'inventaire justement exhaustif de toutes les œuvres accrochées, mais il faut s'arrêter sur quelques-unes d'entre elles. Il y a un tableau très étonnant qui représente l'église Sainte-Catherine à Honfleur. On sait que Monet, d'abord, aimait beaucoup la peinture de Boudin, qu'il était très reconnaissant à Boudin, puisqu'il dit qu'il est devenu peintre grâce à lui, qu'il a emmené peindre dans la nature sur le motif. Et il y a cette église Sainte-Catherine qui est signée Claude Monet. Oui. Et en 2013, on a découvert que ce n'est pas du tout un Monet, mais que c'était un Boudin.
Oui, alors j'allais dire, ce sont les joies de l'enquête et de la recherche. On a appris la chronologie de la collection de Monet. Comment il la commence en arrivant à Paris en 1859, à quoi elle ressemble lorsqu'il décède en 1926. Et pour la première fois, on a été en mesure de dire, mais voilà, il y a une première époque, un deuxième moment, puis le moment de l'aisance et des grandes acquisitions. Alors vous parliez de ce Boudin, c'est une œuvre effectivement très importante. Parce que
Monet va afficher sa dette à Boudin à Jonquin très tardivement, dans les années 20. Or, dès que Monet a les moyens d'acheter, qui va-t-il acheter ? Sans le dire, sans en faire état, ses fameux maîtres, ses précurseurs. Donc, il y a, je dirais, une légère dichotomie entre le discours que Monet va tenir et puis le besoin qu'il va ressentir de collectionner des œuvres de ceux qui lui ont ouvert la voie et auxquels il doit beaucoup. Et puis, il y a ce tableau. Ce tableau, c'est une œuvre qui, à la mort de Monet, est une œuvre non signée. Elle va très rapidement être attribuée, reconnue par Michel Monet et les experts qui l'entourent, comme étant un tableau de Claude Monet. Et donc Michel, qui a la possibilité d'authentifier les œuvres, va apposer le sceau de la signature, c'est un tampon, comme un Claude Monet. Et il va offrir cette œuvre au musée Boudin-Honfleur, en souvenir justement de l'amitié qu'entretenaient les deux hommes. Et en 2013, Laurent Manœuvre, qui est un spécialiste de Boudin, a rendu l'œuvre à l'artiste. Donc vous voyez qu'il y a dans ce type de recherche à la fois des œuvres qui rentrent dans une liste et qui en sortent, et puis des nouvelles attributions, celle-là en fait partie.
Alors il y a aussi des petites surprises dans cette exposition, notamment deux plâtres de Rodin qui ont été retrouvés. On sait que les deux hommes s'étaient rencontrés à Belle-Île en 1886, ils ont fait des expositions ensemble, et d'ailleurs on va redonner la parole à Sacha Guitry qui raconte une petite anecdote sur une exposition des deux hommes.
Claude Monet était chez moi à la campagne et nous avons parlé de Rodin tout un soir. Il en disait monts et merveilles et s'il énumérait les œuvres de Rodin, c'était pour en vanter la puissance et la grâce. Pourtant, dans ses propos, je croyais deviner comme une petite restriction touchant le caractère de l'homme. Questionné à cet égard par Mirbeau et par moi, Claude Monet avoua. Eh bien, je dois dire qu'il m'a fait un jour un coup pendable. Oui. Nous n'avions ni l'un ni l'autre assez d'argent pour louer une salle dans une galerie afin d'y exposer nos œuvres. Nous avons donc décidé d'en louer une à nous deux. Il était convenu que mes tableaux naturellement seraient accrochés et que ses œuvres à lui seraient groupées au centre de la salle. La date de l'exposition était fixée au 18 juin et le 17, sculpture et toile devaient se trouver en place. Le 17 à midi, j'attendais Rodin et ses œuvres, ne voulant accrocher les miennes que d'accord avec lui. Dans la soirée, il me fit dire que ses œuvres ne seraient pas là avant 6 heures, et que sans m'occuper de lui, je n'avais qu'à accrocher les miennes. J'accrochai donc mes toiles, les disposant le plus harmonieusement possible. Les camions de Rodin n'arrivèrent que le lendemain vers midi, 2 heures avant le vernissage. Et lorsque moi j'arrivais, je constatai avec colère qu'il avait placé ses chefs-d'œuvre à 50 centimètres du mur. Les bourgeois de Calais, 6 personnages gigantesques, se trouvant au milieu du panneau principal, cachant complètement mes 5 plus importants tableaux. Et Monet, racontant cela, vivait cette heure tragique comme s'il l'avait vécue la veille, alors qu'elle datait de 51 ans.
Marianne Mathieu, je vous ai vu lever le sourcil. Vous pensez que c'est un peu la verve de Sacha Guitry qui a agrémenté l'histoire ?
Non, je pense que c'est vraiment le choc des titans. Monet, Rodin, ce sont vraiment deux géants. Deux géants qui se rencontrent et qui en plus sont nés à la même date, 14 novembre 1840. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qui scelle leur destin, leur amitié et dans une certaine mesure leur rivalité. Alors ils feront des échanges, ils s'offriront des œuvres et je dirais que là, il y a une exception. Je vous disais, on n'entre pas par hasard chez Monet. C'est-à-dire que chaque œuvre, Monet va la choisir de manière extrêmement méticuleuse. Un artiste n'offre pas une œuvre à Monet sans y avoir particulièrement réfléchi, sans qu'elle ait une signification particulière. Pour Rodin, ça n'est pas pareil. Rodin va offrir en 1886 un bronze à Claude Monet, Jeune mère et enfant, qui est en fait une composition qu'il va travailler au départ pour La Porte de l'Enfer et qui devient un motif autonome. Et Monet, en retour, va lui offrir un magnifique tableau de Belle-Île en souvenir de leur amitié. Et deux autres plâtres arrivent à Giverny. Alors, on ignore précisément dans quelles circonstances. Il s'agit de sculptures érotiques. L'un, c'est un minotaure. L'autre, ce sont deux bacchantes s'enlaçant, dédiées à mon ami, au maître Claude Monet, son ami Rodin, qui est une grande découverte de l'exposition. Or, ces œuvres nous frappent justement par leur érotisme. Monet est un homme d'une grande rigueur, d'une grande pudeur, Alice, dont il partage la vie, est d'une très grande jalousie. Et donc, on peut s'interroger sur la manière dont ces petits plâtres ont été reçus à Giverny. Et d'ailleurs, on n'a pas vraiment de témoignages qui fassent état de leur exposition. Et donc là, il faut plutôt voir le cadeau de Rodin à Monet plutôt qu'une sélection directement du maître.
Alors, vous venez de le dire, Marianne Mathieu, c'est vrai que Claude Monet choisissait ses œuvres avec non seulement son goût d'artiste, mais aussi avec une idée très précise. On remarque dans l'exposition au musée Marmottan des œuvres de Delacroix qu'il a achetées lui-même. Il y a notamment une petite aquarelle, Falaise près de Dieppe. Elle est assez petite et on voit un soleil se couchant sur la mer. Et quand on regarde, on ne peut pas s'empêcher de penser à l'œuvre ultra célèbre de Claude Monet, Impression soleil levant. On peut se demander s'il n'y a pas eu, à travers cette petite aquarelle, cette petite œuvre de Delacroix, un désir de Claude Monet de s'inspirer de ce maître et d'aller au-delà.
Alors c'est très intéressant ce que vous dites, parce que Dominique Lobstein, qui est commissaire de cette exposition avec moi, eh bien était aussi mon compère pour l'exposition d'Impression soleil levant en 2014, et nous commencions l'exposition sur Soleil levant par cette petite aquarelle de Delacroix. Et la question de l'influence se pose. Tout l'intérêt, c'est de trouver la date d'acquisition. Or, Monet ne va acquérir ces petites aquarelles de Delacroix que dans les années 90, c'est-à-dire longtemps après avoir peint son tableau. Donc il y a une dette affichée, une admiration sans borne. Il essaiera d'ailleurs d'acquérir des tableaux de Delacroix plus importants, mais faute d'argent, il n'y parviendra pas. Et donc on voit bien que dès qu'il en a les moyens, Monet souhaite s'entourer d'œuvres d'artistes qui l'ont marqué. Et dans cette collection, seuls ses précurseurs ont un lien avec son travail. Les autres sont singulièrement différentes et nous montrent que l'impressionnisme, ça n'est pas une école, c'est-à-dire un certain nombre d'artistes qui vont se conformer à une même méthode, mais au contraire, un groupe d'individus libres qui vont apporter des solutions artistiques singulières.
Alors, évidemment, dans la collection de Monet et dans cette exposition, il y a une grande place faite à Cézanne, qu'il achetait, qu'il recherchait. Ce sont des tableaux spectaculaires. On entendait tout à l'heure Sacha Guitry parler du nègre Scipion. Il avait un amour particulier pour les œuvres de Cézanne.
Oui, une admiration énorme pour Cézanne. Alors, Cézanne, il le connaît depuis les débuts de l'aventure impressionniste. Cézanne va séjourner à Giverny. Les Cézannes de la collection Monet, eh bien, ne viennent pas directement de chez Cézanne. Monet va les acheter, comme tout le monde, j'allais dire, sur le marché, chez Ambroise Vollard, qui organise la première exposition Cézanne en 1895. Et là, le monde des arts se presse pour admirer cette exposition. Monet fait l'acquisition de deux œuvres, et notamment de ce nègre Scipion. C'est une œuvre rare, une œuvre majeure.
Elle vient du Brésil.
Elle vient du Brésil.
Au musée de Sao Paulo.
On était tellement heureux quand on nous a accordé ce prêt. C'est une œuvre rare parce que c'est une œuvre de jeunesse. Et puis finalement, c'est une œuvre très radicale et c'est l'anti-Monet. On est quasiment sur du ton sur ton, sur des teintes terreuses, presque noires, avec un contraste blanc. On est dans une œuvre qui tranche avec ce que Cézanne pouvait faire à l'époque. Et donc on voit l'audace de Claude Monet par ce choix qu'il affiche. C'est un tableau d'ailleurs qu'il va acheter pour une somme relativement modique, 400 francs. Il en achètera par la suite, hein, bien plus cher d'ailleurs, essayant pour une fois de contribuer à l'augmentation de la cote de son compère pour qu'on reconnaisse enfin son rôle majeur dans l'histoire des arts.
Nous pourrions continuer à parler des heures durant de cette magnifique exposition qui est à voir jusqu'au 14 janvier au musée Marmottan-Monet. Mais je pense que pour les auditeurs, mieux vaut maintenant qu'ils en ont envie aller la voir directement. Merci beaucoup Marianne Mathieu d'être venue aujourd'hui nous en parler.
Merci Katniva.
Et je rappelle donc qu'il y a le journal de Julie Manet au Mercure de France et puis le très beau catalogue de cette exposition qui est édité chez Azan. Puis je voudrais rappeler quand même que l'année dernière est sorti un très joli livre de Michel Bernard à la table ronde qui s'appelle « Deux remords » de Claude Monet, qui raconte justement la mort de Camille et la mort d'Alice ensuite. Merci à vous Marianne, au revoir.
Au revoir.
Eh bien, c'est fini pour l'humeur vagabonde de ce samedi. Si vous le voulez bien, nous nous retrouverons dans une semaine, aux environs de 19h20. Et bien sûr, après les informations de 20h, vous avez rendez-vous avec Julia Foyce et son Babel sur scène. Très bonne soirée à l'écoute de France Inter, bien entendu.